Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode du Petit Chef Philosophe qui va vous surprendre. On s'intéresse à des légendes, des hommes et des femmes qui ont su partir de rien et imposer leur pensée, leur style, leur message. Eh bien, aujourd'hui, on parlera effectivement de management, de méthode managériale, pensée et construite par un général nazi. Mais je ne suis pas là pour donner un cours de management, je suis là pour comprendre et qu'on découvre tout ça ensemble, comment des personnes arrivent à créer tout ça. Comment une personne seule arrive à rassembler des gens pour inventer une méthode, inventer un courant philosophique, inventer un style de peinture particulier, un style musical si on regarde Prince, Michael Jackson, etc. Je trouve leur histoire fascinante. Je trouve ça passionnant qu'un individu arrive à imposer sa pensée alors qu'il vient de nulle part. La pensée est étonnante au premier abord, mais finit par s'imposer. Et je pense souvent à Épicure, notamment parce qu'il préconisait quand même de ne manger que du pain et de ne boire que de l'eau. Et aujourd'hui, il y en a encore des comme ça d'ailleurs. Mais c'est fascinant de voir qu'en proposant une vie si contraignante, il avait quand même des fans. Je remercie dès cette introduction les entrepreneurs qui m'écoutent. Je ne pensais pas trouver une telle communauté sur le podcast. Je travaille d'ailleurs avec des entrepreneurs, c'est un milieu que je connais bien et que j'adore d'ailleurs parce qu'ils dégagent une énergie qui est très positive. En gros, ils ont la gagne quoi. Bref, passons à notre sujet du jour. Je suis sûr que vous vous imaginez que le management nazi s'apparente à du, excusez-moi l'expression, mais ferme ta gueule et avance, mais pas du tout, pas du tout. C'est d'ailleurs tout l'inverse et justement, c'est ça qui est effrayant. Reinhard Hoehn, que nous appellerons Reinhard de son prénom. Hoehn, on va l'oublier parce que je ne connais pas bien les sonorités allemandes. Mais Reinhard, donc, est justement l'inventeur d'un management qui n'a pas su s'imposer, mais, et le mais est important, qui commence petit à petit à refaire son apparition. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Reinhard a conceptualisé et enseigné vers les années 1950, son concept. Et au même moment, un management similaire, mais un peu plus léger dans sa compréhension et son application, naissait aux États-Unis. Et en 1950, sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et l'Amérique n'avaient pas la même aura, on va dire, à cette époque-là, vous voyez ? Donc, Peter Drucker, américain, inventait le management par objectif. Et c'est le grand standard qui façonne nos entreprises aujourd'hui et même aussi les entrepreneurs. Par exemple, quand on passe des commandes à un prestataire ou qu'on lui fixe des objectifs de qualité, des délais à tenir, etc. Ce management-là, il est ancré en nous. Mais aujourd'hui, dans les entreprises notamment, il atteint ses limites. Il est critiqué, essentiellement parce qu'on l'applique très mal, et on se tourne vers un management plus autonome, on va dire. On cherche l'autonomie des salariés. Et là, boum, on est en train, sans le savoir, de se tourner vers le management inventé par Reinhard, ancien général de la SS, qu'il a nommé « management par délégation ». C'est fou. C'est fou. C'est dingue parce qu'on y va, c'est clair. Alors même que les limites de ce management ont déjà été montrées. Mais d'ailleurs, on va les dire. Mais ce qui nous intéresse en premier, c'est comment il a su imposer son concept. Parce que certes, il s'est fait dépasser par un Américain. Bon, à cette époque-là, c'est un peu justifié. Et ça, ben, justement, il n'y a pas que ça. On va voir aussi pourquoi il s'est fait dépasser et qu'est-ce qui a produit cet échec. Mais quand même, il a formé 700 000 cadres à ce management. 700 000 cadres qui lui ont fait confiance. 700 000 cadres. Donc, s'ils sont patrons de 100 salariés, par exemple, ça fait quand même 70 millions de personnes managées par le management de Reinhard. 70 millions. En France, on est 67 millions, en gros. Donc, avec 700 000 cadres, on peut quand même diriger un pays comme la France. Hein, donc, c'est pas rien. Et au contraire, je rajouterai que ce management, il est fait pour gouverner un pays en plus. Donc, puisqu'il vient des problématiques d'extension de l'empire d'Hitler au fur et à mesure de ses conquêtes. En fait, elles étaient trop rapides, il fallait vite s'adapter et Reinhard lui-même a trouvé la solution. Bref, nous parlons de quelqu'un qui pesait lourd, très lourd. Les Vikings sont à la mode en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de séries ou de jeux vidéo qui sortent sur les Vikings. Et nous adorons, nous occidentaux, un petit peu inconscients et insouciants, leur pensée de conquérants. Se battre jusqu'à la mort, la loi du plus fort, n'avoir peur de rien, être libre quelque part en fait. D'ailleurs, la grande époque viking, même s'il y avait des rois, hein, c'était des jarls qui gouvernaient. En gros, des petits souverains, qu'on appellerait chez nous en France, qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient quand ils voulaient, quasiment. Bon. Cette idéalisation de la liberté germanique, hein, c'est une expression que je reprends du livre « Libre d'obéir » de Johan Chapoutot, que je vous recommande. Cette idéalisation donc de cette liberté germanique de penser, de faire, a grandement contribué à l'essor du nazisme. On est sur la même philosophie générale. D'ailleurs, les Sith dans Star Wars, par exemple, sensibles à la force ou pas, hein, je veux dire, l'Empire Sith en fait, la philosophie générale est un peu du même acabit, quoi. Bon, mais laisser place au fort, à la loi naturelle, tu t'imposes et tu gagnes, ceux qui méritent de régner sont ceux qui l'ont gagné. En gros, c'est un peu ça, quoi, l'idée. Bon. Eh bien ça, oui, le nazisme, si vous n'êtes pas familiarisé avec, cette pensée, elle est un peu le socle, on va dire. Mais bref. Par ricochet, le management s'en inspire. Et quand vous multipliez vos effectifs de l'armée par 50 en quelques années et que vous commencez à enchaîner conquête sur conquête de territoires de plus en plus vastes, vous ne pouvez plus compter sur une administration du type un peu caricature de Coluche de l'administration française, quoi, hein. En France, nous aimons bien critiquer le millefeuille administratif. Bon, comprenez qu'en période d'extension, comme le fut la période germanique à cette époque, il faut optimiser. Donc, nous retenons déjà de toute cette histoire qu'il y a un besoin. Reinhard n'a percé que parce qu'il y avait un besoin d'optimiser les organisations. La conquête a créé le besoin. Et Reinhard s'est inspiré de l'idéalisme germanique pour séduire, en fait. Certes, il était passionné par les organisations, les structures des relations humaines, les interactions entre les individus, etc. Mais il serait resté dans l'ombre s'il n'y avait pas eu, à un moment donné, un besoin. Et là, il a su saisir l'opportunité et se mettre en avant. Avant d'analyser comment Reinhard Hahn a imposé sa pensée, je préfère dire deux mots sur son origine à cette pensée. Comment il en est venu à la construire. En fait, Johan Chapoutot, hein, l'auteur du livre, nous explique qu'un état totalitaire, eh bien ici, il se passait d'état, en fait. Ce qui a été décidé à l'époque, c'est de la délégation extrême. Et c'est de cela que s'est inspiré par la suite le management de Reinhard, le management par délégation. On va dire qu'il l'a rendu plus soft, moins militaire. Mais le concept est qu'Hitler s'est aperçu que si tout remontait à lui, il n'avait plus le temps de s'occuper de tout ça. Donc, il y avait une file d'attente, puisqu'il ne pouvait pas traiter tous les sujets en même temps. Cette file d'attente, elle était organisée par son cabinet. C'est son cabinet qui créait la liste d'attente. Et son cabinet qui était constitué de plusieurs personnes, parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Donc ces personnes-là, dans ce cabinet, avaient énormément de pouvoir, puisqu'elles pouvaient choisir quel sujet allait être traité en premier par le Führer. Et en gros, c'était un peu copain-copain, pot de vin, ou pousse-toi de là que je m'y mette, c'est moi qui décide si tu vas passer demain ou si tu passeras dans un mois. Ah, et ça, c'était pas tolérable, de donner autant de pouvoir à ces gens-là et d'en priver Hitler, parce que finalement, c'est lui qui devait décider de la priorité des sujets. Donc, il a été décidé de décentraliser. En gros, donner beaucoup de pouvoir, limite carte blanche, aux responsables, aux généraux dans l'armée, des différents territoires, et comme les jarls à l'époque. Et ce qu'on retient de tout ça, c'est que Reinhard, petit fonctionnaire, est devenu général de la SS. Notamment parce qu'il était très bon en analyse et optimisation de cette organisation, car il adhérait pleinement au darwinisme, à la sélection naturelle, à la pensée nazie. Contre l'État donc. En fait, Il faut comprendre État comme nous en France aujourd'hui. Un État, c'est là pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, garantir une sécurité minimale, un partage des ressources, etc. C'est totalement contraire à la pensée nazie de l'époque et à la pensée viking, à cette liberté germanique de la loi du plus fort, pour caricaturer, ou du darwinisme, si je devais le dire de manière plus intellectuelle. En gros, c'est la sélection naturelle. T'es fort, tu survis, sinon tu meurs et tu ne te reproduis pas. Et de génération en génération, seuls les plus forts se reproduisent. C'est la grande ligne du darwinisme, pour aller vite, hein. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'État que le Führer n'imposait pas ses directives. Alors, comment faisait-il ? Eh bien, c'est là que Reinhard entre en jeu. L'organisation ne doit pas contrer la nature, donc comme l'État, comme on l'entend. Donc, l'organisation ne doit pas contrer la nature. Ici, la sélection naturelle, mais elle doit l'encourager. L'organisation doit encourager ce qui est naturel. Dit comme cela, c'est très tentant. Et l'organisation n'est donc pas blindée de process, de procédures, de normes pour garantir une qualité, le respect de chacun, etc. Mais tout au contraire, elle doit renforcer, accélérer ce qui se fait naturellement. Et là, je préfère citer le livre parce que j'ai trouvé un passage hallucinant. L'État, dans les décennies qui lui restent à subsister, n'a de droit à vivre que dans la mesure où il n'entrave plus la nature, mais où il l'encourage. Jusqu'ici contre-sélectif, car protecteur des faibles et des malades, il doit se faire l'auxiliaire rigoureux et exclusif de la nature par une législation eugéniste prophylactique. Stérilisation des malades héréditaires, des asociaux, des oisifs, c'est ceux qui foutent rien, et d'autres déviants, voire par une pratique meurtrière, gazage, puis euthanasie par injection des non performants, des non productifs et non rentables. Auxiliaire de la nature, l'État doit laisser mourir ou mieux faire mourir en garantissant, voire en hâtant, des processus nécessaires car il n'y a pas d'alternative à la loi apodictique de la nature. Waouh ! Donc, remettons-nous de ce petit passage. Il s'agit là de la philosophie du management de Reinhard, pensée puis imposée à 700 000 cadres. Alors, Reinhard s'en sort très bien après la guerre, puisqu'il n'a jamais été sur le front et qu'il n'a jamais tué personne, directement ou indirectement. C'était un administrateur, un fonctionnaire en gros. Je passe ici les détails pourtant très intéressants de la vie de Reinhard, de sa carrière, belle carrière même d'ailleurs, la fondation de son école, son temps de chercheur, de professeur avec tous ses petits copains anciens SS. Forcément qu'ils étaient nombreux, il a bien fallu que le pays se réorganise avec les moyens du bord, on pouvait pas non plus tous les tuer. Hein. Donc retrouvez tous ces détails dans le livre de Johann Chapoutot, Libre d'obéir. Nous allons nous intéresser à la façon dont Reinhard a imposé son style, si je puis dire. C'est ça qui nous intéresse. Malgré tout ça, il a quand même conceptualisé un management et il a réussi à le diffuser. Eh bien, en fait, il a fait passer son management pour un management moderne, tout simplement. Fini le temps de la dictature, de l'absolutisme. Les personnes, aujourd'hui, ne veulent pas être des subordonnés, mais plutôt des collaborateurs. Et les managers qui m'écoutent doivent en avoir des sueurs froides, parce que, effectivement, aujourd'hui en entreprise, on ne dit plus subordonné, on dit collaborateur. Et ça, Reinhard y avait déjà pensé. Bien sûr, puisque nous l'avons vu, il ne s'agit pas d'imposer un patron, une hiérarchie. Il s'agit d'encourager la nature, d'encourager la sélection naturelle. On est toujours sur le même registre. Mais avec un bon discours et un peu de storytelling, en gros, ça consiste à redonner le pouvoir au peuple, le pouvoir à la communauté. Oh, c'est beau dit comme ça. Reinhard défend le concept communautaire. C'est l'ami du peuple. Et oui, puisque dans ce peuple, seuls les plus forts se font entendre pour Reinhard. Donc c'est idéal pour lui. Il va encourager le management qui donne du pouvoir à la communauté. L'heure est au management de proximité, au management qui donne la parole à tout le monde, à l'intelligence collective, j'ose le dire, parce que c'est à la mode en ce moment. Puisque pour Reinhard, il ne subsiste que les plus forts. Les décisions prises collectivement, en intelligence collective par exemple, implique que les faibles n'ont pas su se faire entendre, dans la pensée de Reinhard à lui. Et voilà, le tour est joué, les forts s'expriment, les faibles s'écrasent. Et ouais, c'est ça la communauté. Donc vous, chers auditeurs, entrepreneurs et managers, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'avec un bon processus d'explication, où A implique B, etc., etc., un bon storytelling et la façon dont on présente les choses, eh bien, hop, tout est possible. Pour imposer sa pensée, il faut surfer sur la vague. Ça aide. Alors, pourquoi Reinhard ne s'est pas imposé en Europe tout entière, puisque ça marchait si bien? Quelle a été son erreur? Le problème dans ce management, c'est qu'il délègue tout, y compris les responsabilités et les conséquences si ça ne va pas. J'ai lu un livre récemment d'une conversation entre un philosophe et un manager. Le bouquin en porte quasiment le nom, mais je ne le citerai pas. Un chapitre porte le titre de « Le manager n'est pas un héros ». Alors, preuve qu'aujourd'hui, on se questionne sur nos pratiques managériales et notamment la pression qu'on met sur les managers. Alors, d'accord, c'est vrai, le manager n'est pas un héros. J'ai même entendu dire qu'il n'était pas forcé d'être exemplaire. Ma foi, ça, je vous laisse essayer d'être manager et ne pas être exemplaire et vous m'en direz des nouvelles. Mais s'il commence à se déresponsabiliser de tout, qui prend la charge? Eh bien, le salarié lui-même. Enfin, pardon, le collaborateur. Donc, il prend tout. Avec le management par délégation de Reinhard, il s'agit d'un transfert de pouvoir avec tout ce qui va avec, la responsabilité de réussir et la responsabilité en cas d'échec. Donc, grosse pression. Aujourd'hui, les entreprises commencent à s'y pencher puisque les managers sont un peu à bout. Mais personnellement, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas assez de marge de manœuvre. Cependant, il y a une différence entre faire confiance aux managers et les décharger de toute responsabilité. Les entreprises libérées porte le slogan de « c'est celui qui fait, qui sait ». En gros, le manager n'a pas à dire comment il faut faire. Mais quand même, c'est lui qui fixe les objectifs, met à disposition les ressources. Ça, c'est important. Ok, fixer des objectifs, ok, mais aussi mettre à disposition les ressources. Il accompagne son collaborateur, il l'écoute, il apprend, il cherche des solutions avec lui, etc. Bon, certaines entreprises qui n'ont pas tout compris, délèguent tout. En gros, l'entreprise libérée, c'est plus hiérarchie, puis on délègue tout. C'est pas comme ça que ça se passe. En gros, c'est voici ton objectif, tu as carte blanche, on se revoit dans 6 mois. Bon, c'est pas du tout ça. Ça, c'est du management par délégation, justement. De Reinhard, donc ancien général SS, nazi, sélection naturelle, loi du plus fort, enfin, tout ça, quoi. Donc, pourquoi on a tendance à glisser vers lui aujourd'hui? Et puis surtout, s'il apparaît comme une solution aujourd'hui, pourquoi ne s'est-il pas imposé avant? Eh bien, c'est à cause de Reinhard, de son passé, hein, certes, qui a freiné la foule quand celui-ci a été découvert, quand même. Donc, je vous le demande, si vous êtes entrepreneur ou manager, avez-vous un passé un peu douteux? Si c'est le cas, ça peut freiner. Mais c'est surtout parce qu'il n'était pas bon pédagogue. Et le management par objectif de Peter Drucker, l'américain donc, consiste en gros en 5 clés, donc c'est très pédagogique, juste 5 clés. C'est quelle est notre mission? Qui est notre client? À quoi le client accorde-t-il de la valeur? Quels sont nos résultats? Et quel est notre plan d'action? Ça c'est facile à comprendre, facile à assimiler et c'était présenté de manière très pédagogique et ludique. À noter que le management par objectif d'aujourd'hui est assez loin du management imaginé par son concepteur. Quand je vois des objectifs faire tant de chiffres d'affaires, on est quand même très très loin du management par objectif inventé par Peter Drucker. Mais bon, on peut effectivement supposer chez nous que de ce côté de l'Atlantique, on a été influencé par notre culture et par le management par délégation. Du coup, on a fait une sorte de mix des deux. Mais enfin bref, je ne suis pas là pour faire un cours de management, je l'ai dit en préambule, je suis là pour comprendre l'erreur de Reinhard. Et son erreur a été de ne pas être pédagogue avec son public. Et sur Instagram, par exemple, je vois parfois des photos magnifiques de photographes très talentueux, mais sans aucun contexte. C'est genre, débrouille-toi pour trouver le message, pour ressentir ce que tu es censé ressentir, d'imaginer ce que tu es censé imaginer. En gros, une sorte de management par délégation de l'émotion. Hein. clairement les meilleurs photographes, enfin les plus populaires, j'entends, qui imposent leurs pensées, qui imposent leurs messages, nourrissent leur public d'un bon contexte, avec du storytelling. C'est valable pour tout le monde, bien sûr, pas que pour les photographes. Passez-vous donc de l'erreur de Reinhard. Manager, entrepreneur, il y en a eu pour tout le monde aujourd'hui. Je m'excuse d'avoir abordé plein de sujets différents et d'avoir fait pas mal de simplifications, mais ça a permis de ne pas se perdre dans les détails. Notre protagoniste, hein, Reinhard, a fini dans l'oubli. Jusqu'à 90 ans, je crois, de tête. Bah, c'est la triste conclusion, entre guillemets, de cet épisode. Merci à vous d'avoir été jusqu'au bout. Si vous souhaitez que nous fassions venir des leaders sur ce podcast, des managers talentueux, des artistes qui sont populaires, qui imposent leur style, des philosophes créateurs de concepts qui se diffusent, pour qu'ils viennent partager avec nous eh bien, comment ils en sont arrivés là, eh bien, notez 5 étoiles ce podcast sur la plateforme de votre choix. Partagez-le pour qu'il gagne en popularité. À bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.